bonjour à tous. 35 minutes pour explorer une idée, développer un point de vue. C'est tous les jours, donc, dans la deuxième partie de la Grande Table, un peu avant 13h, jusqu'à l'admi aujourd'hui, avec Camille Magnard qui reste à nos côtés. Aujourd'hui, ni Dieu ni Maître, un mot d'ordre et le titre d'un documentaire en deux volets diffusé ce soir sur Arte. Qui sont les anarchistes? Quelle conception de l'État ont-ils développé? Sur quoi reposait cette société libre, égalitaire, fraternelle à laquelle ils aspiraient? Quelle confrontation avec leur époque? On en parle avec le réalisateur de ce documentaire en deux volets, Tancrède Ramonet, fondateur de la société de production Temps Noir, de l'anarchisme aujourd'hui. Il dit avoir eu envie de faire découvrir aux nouvelles générations cette autre forme de socialisme parce qu'il est à l'origine de toutes les grandes conquêtes sociales et parce qu'il peut aider à répondre à des questions actuelles, la démocratie directe, les luttes minoritaires, le recours à la violence notamment. Bonjour à vous, Tancrède Ramonet.
Bonjour.
À vos côtés, Irène Pereira, enseignante à l'université de Créteil, membre du comité de rédaction de la revue anarchiste Réfraction, auteur entre autres de l'anarchisme dans les textes, anthologie libertaire parue chez Textuel. Sur l'anarchisme, elle a écrit que nous le voulions ou non, notre pensée est imprégnée de mythes, et c'est vrai, même pour des anarchistes rationalistes, mythe d'un passé meilleur que le présent, puisqu'il existait des sociétés sans État, mythe de la perversion progressive avec le développement de l'étatisme, mythe encore de la rédemption, plus ou moins apocalyptique. Bonjour à vous, Irène Pereira.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez vu le film de Tancrède Ramonet? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parti pris, point fort, oubli? Un premier aperçu?
Oh ben moi, j'ai plutôt eu un point de vue positif en le voyant. Déjà parce que ce que j'ai trouvé très positif dans ce documentaire, c'est le fait qu'il donne la parole vraiment à des spécialistes de la question. Je pense à Marianne Henkel, je pense à Gaetano Manfredonia, qui sont vraiment des gens qui sont reconnus dans ce domaine de recherche, même s'ils ne sont pas des universitaires. Et voilà, ça, j'ai trouvé que c'était un point positif. L'autre point positif qui était intéressant, c'est d'avoir donné aussi un regard plus global de l'anarchisme et sans le cantonner uniquement à la sphère européenne. Et ça, c'était aussi un point intéressant.
Et point négatif ou les oublis pour vous?
Ce qui est dommage, c'est que ça s'arrête à la Seconde Guerre mondiale et voilà, et qu'il n'y ait pas de suite, ce qui a tendance un peu à momifier l'anarchisme dans son histoire, ce qui ne correspond pas à la réalité. Hein. Ça, c'est un peu dommage.
Alors, on va parler de l'aujourd'hui. C'est vrai que ces deux volets couvrent la période 1840 jusqu'à 1945. Tancrède Ramonet, un troisième volet, vous l'aviez imaginé, vous l'aviez pensé. Il n'a pas été tourné, en tout cas, il ne sera pas diffusé.
Il est en cours, il est en montage. Et effectivement, il couvre la période 1945 à 2001. Il s'appelle Les réseaux de la colère. Et voilà.
C'est du Steinbeck presque dans le texte. Oui. Vous verrez, si ça marche ce soir, on connaît un peu la télé. Il y aura probablement ou peut-être diffusion du troisième volet. Un jour, 150 ans d'histoire depuis Proudhon, La propriété, c'est le vol. Un documentaire donc en deux volets pour l'instant jusqu'en 1945. Est-ce à dire que l'histoire de la pensée anarchiste s'arrête là, qu'il n'en reste plus rien aujourd'hui? Seulement une mémoire à transmettre, des acquis à raconter, ou est-ce que cette pensée anarchiste est encore très vivante?
Alors, elle est absolument vivante. D'abord, il existe aujourd'hui encore de grandes figures anarchistes comme Noam Chomsky. L'anarchisme est très large. Hein. Il va de Audrey Vernon, qu'on connaît à la Maison de la Radio, à Noam Chomsky, de Ovidie à Tardy, de David Graeber. Mais plus généralement, il s'incarne aussi dans des collectifs. On a parlé de Réfraction. On le retrouvait à Nuit Debout, à Lazare, de Notre-Dame-des-Landes, à l'intérieur des mouvements Anonymous ou à l'avant des manifestations, dans ce qu'on appelle les Black Blocs. Et puis, encore plus largement, à la suite d'une étude qui a été menée par Christophe Nick dans Génération Watt, on le voit même qu'il a imprégné la jeunesse, puisque à 99%, c'est pas un sondage, c'est une statistique qui a été faite. À 99%, la jeunesse aujourd'hui considère que les politiciens sont corrompus. À 82%, considère que les médias de masse sont manipulent. Et à 62%, se disent prêts à participer à une révolte de grande ampleur contre le capitalisme. Donc c'est dire si l'anarchisme n'a presque jamais été aussi vivant Et on le retrouvait à Nuit debout, sur les places des indignés, dans les mouvements Occupy, tout à travers le monde.
Est-ce que c'est vous, Tancrède Raymonet, qui avez une définition assez large de l'anarchisme ? Est-ce que ce sont eux, c'est-à-dire ces figures que vous citez, ces mouvements qui se revendiquent comme tels ? En somme, qu'est-ce qu'il faut pour être perçu ou être tout court un anarchiste aujourd'hui ?
Alors, il y a plusieurs choses. Irène peut en parler mieux que moi, parce qu'elle est spécialiste. Je dis juste un petit point, c'est que l'anarchisme se définit d'abord et surtout par des pratiques. On n'a pas de carte du parti anarchiste comme on avait sa carte du parti communiste. L'anarchisme, c'est un peu comme l'art. On est un artiste parce qu'on a une pratique artistique. Et ben, on peut dire qu'on est anarchiste à travers ses pratiques. Ensuite, quand je dis que à Nuit debout, il y a de l'anarchisme. Je ne dis pas que Nuit debout est anarchiste. Je ne dis pas que l'avant des cortèges, habillés de noir et cagoulés, que tous sont anarchistes. Je dis il y a de l'anarchisme à l'œuvre là-dedans. Et que donc, la pensée anarchiste, les pratiques, continuent de se diffuser, d'imprégner la société. On le retrouve évidemment dans ce qu'on appelle parfois abusivement les acquis sociaux, qu'on pourrait plutôt considérer comme des conquis sociaux, dans la limite du temps de travail, dans le droit à la contraception, dans les luttes intersectionnelles. Partout, ce sont des anarchistes qui ont été les premiers à porter ces questions-là, dans la séparation de l'Église et de l'État, ont été les premiers à les porter, et qui aujourd'hui, on a oublié leur origine, mais aujourd'hui font partie de nos conquis sociaux.
Un mouvement, une pensée, des conquêtes, on va redérouler ensemble le fil de l'histoire de l'anarchisme. Si vous le voulez bien, un mot peut-être juste, Irène Pereira, sur le « aujourd'hui ».
Bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, à la fois le mot anarchisme qui désigne des choses très diverses, hein, c'est ce qu'a dit Tancrède Raymonet. Bon, après, il y a des gens qui se disent de sensibilité anarchiste. Il y a effectivement des modes d'organisation qu'on peut qualifier de libertaires, et c'est plutôt souvent cette étiquette qui est plutôt utilisée d'ailleurs que celle d'anarchiste. Et celle d'anarchiste, bien souvent utilisée par ceux qui se revendiquent véritablement plutôt de la tradition anarchiste historique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que des pratiques irradient plus largement que le mouvement anarchiste historique, et qu'on les retrouve ce qui a été dans, par exemple, dans les années 90, le mouvement altermondialiste, et puis ensuite dans les mouvements des places, que ce soit Occupy ou ce qui s'est passé en Espagne aussi.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une présence anarchiste forte et un engagement pour pallier l'inaction de l'État sur la question de l'accueil des migrants? On parlait dans le journal du campement de Grande-Synthe qui s'est fait un peu contre l'avis de l'État, mais plus largement autour dans la jungle. Est-ce que c'était aussi un point de cristallisation et d'engagement fort pour les milieux anarchistes? Et ça l'est toujours sans doute.
Oui, il y a des anarchistes qui sont bien sûr engagés dans les luttes pour de soutien aux migrants, aux sans-papiers, et cela depuis les années 90, aux côtés d'autres personnes qui, sans se revendiquer anarchistes, peuvent aussi se reconnaître d'ailleurs dans des pratiques plutôt libertaires, comme le réseau RESF par exemple, qui le terme même de réseau indique une structure assez souple, assez décentralisée, et pourtant plein de gens ne sont pas anarchistes du tout dans ce réseau, et se revendiquent d'un mode d'organisation qui est plutôt libertaire, hein, dans sa structuration, on va dire.
L'anarchisme, une pratique dans l'imaginaire le plus répandu, quand même, l'anarchisme, c'est le noir, c'est aussi le rouge, le sang, la violence, une association qui peut paraître inquiétante. Vous insistez dans Ni Dieu ni Maître, Tancrède Raymonet, sur la part collective du mouvement. Toutes les grandes conquêtes sociales et les avancées individuelles à l'origine desquelles est l'anarchisme, il y a l'envie pour vous, à travers ce film, ce double documentaire, de réhabiliter une histoire oubliée, celle d'un mouvement qui était quand même à l'avant-garde sur un certain nombre de thématiques, de sujets qui concernaient les relations sociales aujourd'hui.
Alors d'abord le rouge du sang qui est dans le drapeau rouge à l'origine, c'est pas le rouge du sang que les révolutionnaires ont fait couler, c'est le rouge du sang des ouvriers des ouvrières qui ont été assassinés souvent par la brutalité de l'État. En fait, je ne me rappelle plus de votre question après.
Est-ce qu'il y avait une envie de réhabilitation pour vous, justement, en montrant les aspects aussi positifs d'un mouvement, d'une pensée, dont on peut revenir aussi sur les pages sombres, et d'ailleurs, vous le faites dans ce documentaire, vous ne les occultez pas.
C'était pas une envie de réhabilitation. Je crois que il y avait deux idées au départ, c'est que l'histoire de l'anarchisme, d'abord, elle a été en réalité occultée. Elle a été occultée par la conjonction de deux phénomènes où, disons, la ligue de deux pouvoirs apparemment contradictoires qui se sont unis pour occulter la mémoire libertaire, qui sont d'un côté, disons, l'histoire ou l'historiographie marxiste ou stalinienne qui avait intérêt à faire disparaître le rôle qu'avaient joué les anarchistes dans la révolution russe, qui étaient à l'avant-garde du mouvement ouvrier et qui avaient été aussi les premiers à dénoncer la dérive totalitaire et dictatoriale du système soviétique. Et de l'autre côté, disons, l'histoire de bourgeoise, telle qu'elle est racontée dans nos démocraties, qui avait là aussi intérêt à caricaturer le mouvement anarchiste, à le peindre en noir, à faire de tout anarchiste ou de tout révolutionnaire un potentiel tueur de bombes, un assassin avec le couteau entre les dents, en occultant le rôle que les libertaires avaient pu jouer dans la création des bourses du travail, dans la création des syndicats, dans, je le redis, les premières organisations ouvrières, les premières écoles libres, etc. Et donc, bien sûr qu'il y a cette dimension qui est... on ne peut pas occulter le fait que les anarchistes ont, à des moments, eu recours à la violence individuelle, ce qu'on appelle le terrorisme, mais le fait d'avoir monté ça en épingle et d'avoir réduit la pensée libertaire au fait de poser des bombes a été très utile au pouvoir ligué pour faire pour occulter ce qu'il y avait d'intéressant. Et j'ajoute à ça que c'est une histoire résultat qui est très actuelle et qu'il est nécessaire de la redécouvrir aujourd'hui. Parce que tout ce pan de la mémoire ouvrière, d'une histoire populaire, nous est utile aujourd'hui.
Alors justement, tant que Red Ramonet, Irène Pereira, attentat, terrorisme, appel à l'insurrection, l'anarchisme, c'est aussi les bandits tragiques de la bande à Bono, l'assassinat du tsar Alexandre II, celui du président de la République, Sadi Carnot. Ce n'est pas sans raison que l'anarchisme est quand même considéré par beaucoup comme un péril noir, mais à tort aussi, et c'est ce que vous expliquez bien dans ce documentaire pour une autre partie de ce mouvement. Ces représentations négatives, avant de venir sur les conquêtes dont on va parler ensemble, ne datent pas d'hier. Anarchie, Socrate et Platon déjà l'associent à une forme corrompue du régime démocratique, Irène Pereira, un désordre dans un État, écrit Diderot dans son encyclopédie. Avant Proudhon, l'anarchisme évoquait quelque chose aussi de déstabilisateur, très fortement.
Oui, l'anarchisme, à la base, c'est, disons que le terme prend, anarchie, nous prend un terme positif, un sens positif dans la pensée politique avec Proudhon, qui en change le sens, puisqu'avant, effectivement, ça désigne un régime politique, enfin, justement, une absence de pouvoir politique qui est identifié au désordre. Et c'est avec Proudhon, en fait, que le terme prend un sens positif, ce qui est assez bien rappelé dans le documentaire. Après, si on revient sur la question des attentats, bien sûr, la question de... il n'y avait pas que les anarchistes, en fait, et même d'autres courants révolutionnaires, comme les populistes, etc., ont pratiqué les attentats avant. Donc, c'est vrai qu'il y a une réduction un peu à... une fixation un peu sur les anarchistes autour de cette question-là, mais qui a été aussi l'effet de toute une médiatisation, hein, qu'on oublie un peu, qui a été... étudié dans un ouvrage qui s'appelle « Fiction de l'anarchisme » de Yuri Eisenweg et qui montre très bien que avant même l'acmé des attentats anarchistes, il y avait déjà toute une ambiance qui avait été créée par les médias de l'époque autour de la crainte de l'anarchisme. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là qui est un peu occulté dans toute cette question.
Et c'est cette médiatisation, c'est cette crainte qui a poussé un certain jusqu'au boutisme. On répondait à une forme de violence par une autre violence, vous diriez aujourd'hui ?
Non, mais je dirais que ça a créé, si vous voulez, les conditions dans la société d'une peur qui a été amplifiée de l'anarchisme, alors que d'autres courants politiques avaient pu pratiquer des attentats sans susciter la même crainte irrationnelle qui se prolonge encore aujourd'hui, sachant que je crois aussi que c'était rappelé dans le documentaire, mais il y a des courants très divers dans l'anarchisme. Il y a des non-violents, des gens qui étaient totalement non-violents. Et donc j'ai toute une tendance qui est issue de l'anarchisme, on va dire d'un anarchisme chrétien tolstoïen, qui a inspiré Gandhi. Bon, c'est pas tellement ça qu'on met en avant. Vous voyez, il y a aussi des choix dans la mémoire qui font qu'on va retenir plutôt certaines choses que d'autres. Et à l'époque aussi, bien, toute cette crainte de l'anarchisme a favorisé le passage des lois scélérates qui n'ont pas eu qu'un impact sur les anarchistes, mais qui ont eu un impact aussi sur l'ensemble.
Les lois scélérates,
c'est des lois qui ont condamné en particulier l'utilisation du terme anarchisme et de la constitution de groupes anarchistes et qui ont été abolis qu'avec le nouvel code pénal, je crois, en 1994.
Des figures très différentes, vous le disiez, des courants différents aussi. C'est ce que vous montrez dans ce documentaire « Ni Dieu ni Maître » Tancrède Ramonet. L'anarchisme n'était pas et ne peut pas se résumer à une espèce de bloc monolithique. À l'origine donc était Proudhon, influencé par Marx et Tolstoï en 1840. Il est le premier, en bon théoricien socialiste qu'il est, à en proposer une acceptation positive. « Ami de l'ordre, je suis anarchiste. La société en somme peut chercher et trouver l'ordre dans l'anarchisme. » Extrait de « Ni Dieu ni Maître ».
Jusqu'à la moitié du 19e siècle encore, le terme d'anarchisme, dont la racine grecque « anarché » signifie « absence du pouvoir », est un terme négatif utilisé pour désigner le désordre et le chaos. Mais si de grandes personnalités comme Sade, Babeuf ou Godwin avaient pu être auparavant taxés d'anarchistes, c'est Pierre-Joseph Proudhon qui s'en sert pour définir une position politique révolutionnaire et charger soudain l'anarchisme d'une valeur positive.
Proudhon, il est né à Besançon, au début du 19e siècle. Et contrairement à la majorité des autres théoriciens socialistes, ou même anarchistes, il est issu d'un milieu d'origine populaire. Et la grande force, et aussi la grande originalité de Proudhon, c'est justement de savoir de ce qu'il parle lorsqu'il dénonce les inégalités sociales ou les injustices sociales.
Là, on entendait à l'instant la voix de Gaetano Manfredonia, dont vous parliez tout à l'heure, Irène Pereira, historien italien, spécialiste du mouvement ouvrier et libertaire en Italie et en France. À la manière d'Oscar Wilde, est-ce qu'on peut dire que les anarchistes pensent que partout où un homme exerce une autorité, il y a un homme qui résiste à l'autorité? Qu'est-ce qu'il combattait, au fond, Tancrède Ramonet?
L'anarchisme, c'est un peu dans sa définition, c'est la lutte contre toutes les formes d'exploitation et de domination non consentie. Hein. Donc oui, il y a une solidarité internationale. D'ailleurs, vous parliez de violence tout à l'heure. C'est assez intéressant, d'ailleurs, la manière dont certains anarchistes vont passer à l'action armée. Il y a une manifestation qui a lieu à Chicago en 1886 ou 87, maintenant la date m'échappe, et cette manifestation est très sévèrement réprimée. Il y a une fausse bombe qui est posée là par la police, et des anarchistes sont arrêtés, qui sont les meneurs de cette manifestation à Haymarket, hein, à Chicago. Des anarchistes sont arrêtés, et en gros, 5 d'entre eux sont condamnés à mort et exécutés. Et dans le monde entier, aussitôt, les martyrs de Chicago vont devenir des symboles. Et les ouvriers du monde entier vont se mobiliser pour rétablir la mémoire des ouvriers martyrs de Chicago. Et c'est en France, quand a lieu la première manifestation du 1er mai, on connaît l'histoire de Fourmi en 1891, où la troupe tire sur des femmes et des enfants mineurs en assassinant plusieurs, mais aussi une manifestation qui a lieu à Clichy, dans la banlieue parisienne, où des anarchistes en tête de cortège arborent un drapeau rouge à ce moment-là et sont arrêtés et condamnés à de très lourdes peines de prison. Et c'est en réponse à cette condamnation des anarchistes de Clichy que Ravachol pose sa première bombe qui ne tue personne dans l'escalier devant la porte du juge et du procureur qui avaient fait condamner ces anarchistes manifestants.
Ça veut dire que la violence...
Et tout ça s'inscrit encore, on est 20 ans après, la semaine sanglante où l'État et la bourgeoisie ont fait assassiner 25 000 ouvriers dans les rues parisiennes. Et comme le raconte Jean-Yves Mollier, qui est un historien dans le documentaire, il raconte, il a cette anecdote qui dit que si on arrête de fusiller les gens, c'est parce que la terre de Paris ne peut plus absorber le sang. Et là, c'est des femmes, des enfants qui sont pris, raflés au hasard et exécutés contre des murs. Et ça, c'est un traumatisme dans la mémoire ouvrière, la Commune de Paris. Et c'est pas étonnant que 20 ans après, des gens, des individus, dans un moment un peu de reflux révolutionnaire, des individus pensent que peut-être à eux seuls, en décapitant les sommets de l'État, en tuant un roi, un prince, un président de la République, en jetant une bombe dans une chambre des députés, bah, peut-être ils vont créer un vide qui va précipiter la révolution et permettre de prendre conscience à la masse des travailleurs qu'ils sont exploités et dominés. Mais il faut encore une fois voir que ce sont des enchaînements, il y a des causes et des effets, on ne fait pas de l'histoire événementielle, on est dans une histoire qui est une histoire sociale, ouvrière, et que le massacre des communards, la condamnation au bagne de milliers d'ouvriers et d'ouvrières a amené à cette espèce de montée de la violence et aussi de pessimisme de la part des ouvriers.
Un recours à la violence anarchiste qui se fait pas après une critique ou une remise en cause de la légitimité d'une violence d'État. Le discours est beaucoup centré sur cette idée de la violence d'État qui est remise en cause.
En gros, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une violence qui serait légitime, qui serait celle de l'État, et la violence ouvrière serait-elle illégitime? On la retrouve dans le moment des arrachages de chemises, des DRH. C'est la même question qui se pose. Pourquoi la violence sociale légitime illégitime d'un plan social qui consiste à mettre des milliers de gens à la rue aurait une légitimité, et celle d'arracher 3 chemises serait-elle illégitime?
On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, voilà.
Symboliques qui apparaissent au vu de ce qui s'est passé plus tôt.
Discours qu'on entendait aussi dans les têtes de cortège des manifestations contre la loi travail, par exemple.
Bien sûr, sur la question de la légitimité de la violence. De toute façon, l'anarchisme, c'est un questionnement de la légitimité de l'autorité.
Et alors justement, parmi les valeurs, Irène Pereira, le chercheur canadien Normand Baillargeon, cite cette maxime anarchiste: pleine liberté sans égalité, c'est la jungle. Pleine égalité sans liberté, c'est la prison. C'était ça les valeurs aussi qui nourrissaient, alimentaient le mouvement anarchiste, en tout cas à l'origine, ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.
De fraternité, je ne sais pas, parce que la notion de fraternité, elle a une certaine histoire qui est aussi liée au christianisme et à la franc-maçonnerie.
Et républicaine quand même depuis, mais je trouve que c'est intéressant de voir justement dans le regard ou dans la pensée anarchiste comment ce triptyque des valeurs était interprété.
Ah oui, mais les anarchistes avaient leurs propres principes, en tout cas certains d'entre eux, puisque la notion d'entraide chez Kropotkin, qui voyait en fait dans... l'évolution naturelle, non pas la lutte de la survie du plus apte, la lutte des individus les uns contre les autres, mais au contraire, un principe d'entraide qui a permis aux espèces de survivre. Donc effectivement, cette non pas la notion de fraternité, mais celle d'entraide, on la trouve en tout cas. Et puis l'égalité, la liberté, oui, c'est la liberté par opposition à ce qu'ils appelaient les marxistes autoritaires, hein, dont Marx était une des figures, hein, pour les anarchistes. Et puis l'égalité, certainement, ce qui distingue l'anarchisme de d'autres formes avec lesquelles on pourrait les confondre, parfois, comme l'anarcho-capitalisme, etc. Donc s'il n'y a pas l'égalité, s'il n'y a pas la liberté, on risque d'aller vers d'autres types d'idéologies politiques qui ne sont plus l'anarchisme.
Et qu'est-ce qui distinguait, pardon, les anarchistes des communistes, ces frères ennemis, finalement? Ça s'était constitué sur quoi, Tancrède Ramoneb? Ça, c'est une autre part importante que vous essayez de décrire dans Ni Dieu ni Maître.
Alors, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas distinguer les anarchistes des communistes. communiste, puisque par exemple Kropotkin invente l'anarcho-communisme, c'est-à-dire que anarchiste et communiste, ou disons marxiste à ce moment-là, hein, ont le même objectif, c'est-à-dire d'arriver à une société qui serait sans classe et sans État. C'est l'objectif final. C'est sur la voie à suivre pour y arriver. Les uns et les autres sont favorables à une révolution. Les marxistes pensent qu'il faut qu'il y ait une dictature du prolétariat et un maintien de l'appareil étatique. Bakounine, qui est à ce moment-là le grand, l'opposant à Marx au sein de l'Association internationale des travailleurs, lui pense que c'est une erreur et que si on conserve l'État, on sera pris au piège de l'État et du pouvoir et donc s'installera une dictature rouge. Donc la différence, disons, entre... Il vaudrait mieux parler de bolchévique ou de stalinien, de marxiste-léniniste et d'anarchiste, c'est vraiment sur cette étape intermédiaire et en amont, avant la révolution, c'est aussi sur l'organisation du parti. Les marxistes-léninistes sont favorables à une organisation du parti pyramidale, dans laquelle, en gros, il y a un chef. Hein, et les anarchistes, comme le dit l'International, qui est une chanson en réalité d'inspiration libertaire, ils sont favorables au fait qu'il n'y ait ni dieu, ni maître, ni tribun, et que l'organisation soit horizontale, sous forme de fédération, etc.
Voilà, il y avait des ennemis communs, l'exploitation, le capitalisme, l'État, et il y a pourtant eu aussi des luttes fratricides entre ces différents courants. France Culture, il est 13h, passé de 21 minutes. On est en compagnie de Tancrède Ramonet, le réalisateur, auteur du documentaire Ni Dieu ni Maître, et de Irène Pereira, spécialiste de l'anarchisme, enseignante à l'université de Créteil.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées.
Le grand Léo, c'était juste pour vous, Camille Magnard, les anarchistes. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. La question des femmes aussi. On a évoqué déjà les rapports avec notamment le marxisme, le communisme. On va parler aussi, j'espère, ensemble en quoi les anarchistes ont pu être aussi précurseurs sur la question syndicale. Un mot donc de cette question des femmes. Vous évoquez aussi les grandes figures féminines de l'anarchisme, de Louise Michel à Emma Goldman, là où le communisme ne faisait pas de l'égalité femmes-hommes une priorité, loin de là, ou au contraire. Extrait de Ni Dieu ni Maître.
Au fur et à mesure de l'implantation des syndicats anarchistes, ceux-ci se dotaient toujours de sections féminines. Ce ne sont pas des ghettos, car ces sections féminines étaient vraiment aux avant-postes de la Révolution. Et je crois que c'est important de comprendre ça, car les femmes jouaient alors un rôle de pionniers. Et ces sections féminines devenaient aussitôt, en quelque sorte, des avant-gardes révolutionnaires.
Esclaves entre tous les prolétaires, ce sont effectivement des femmes qui mènent ces luttes syndicales et ouvrent pour l'anarchisme de nouveaux fronts. Le mouvement libertaire devient ainsi, en ce temps où les femmes n'ont pas le droit de vote, ni celui d'avoir un compte en banque, le seul mouvement révolutionnaire à avoir des figures féminines de premier plan. On se souvient de Louise Michel, la communarde réprouvée devenue héroïne populaire, et d'Emma Goldman, l'émigrée russe surnommée la femme la plus dangereuse d'Amérique. Connues et reconnues, ces femmes qui remplissent les salles sur leur seul nom sont admirées par les sympathisants anarchistes et craintes par les pouvoirs établis, qui n'hésitent pas à les enfermer, à les déporter et même à les exécuter, comme ce fut le cas de Kanon Sugako, journaliste féministe et martyre japonaise, qui finira pendu au crépuscule du soir après avoir été accusé à tort de haute trahison.
Les femmes pionnières dans l'anarchisme, Irène Pereira, mais est-ce que tous les anarchistes étaient pionniers en féminisme, comme Mathilde de Proudhon, par exemple?
Je serais un peu plus nuancée hein, quand même sur les rapports des anarchistes à la question des femmes, bon, sans remonter nécessairement à Proudhon, dont on connaît bien la misogynie, mais Bon, on va pas revenir nécessairement toujours sur cette question-là, mais c'est vrai que si on compare même avec les autres organisations ou les autres milieux politiques de l'époque, je ne sais pas si les anarchistes sont particulièrement illustrés. Il y avait un mouvement féministe déjà à l'époque, et puis des figures révolutionnaires, Alexandra Kollontai, Rosa Luxembourg, sont pas forcément anarchistes. Mais c'est vrai qu'il y a eu des figures de femmes anarchistes, mais ça reste, à mon avis, quand même des figures relativement isolées. Et c'est un peu une illusion rétrospective parfois de l'anarchisme que d'y voir une espèce de... Oui, de ferment du mouvement féministe. Alors, je serais beaucoup plus nuancée.
Tancrède Ramonet, Irène Pereira, sur la question des acquis, des conquêtes sociales ou des conquis sociaux, comme vous le disiez, Tancrède Ramonet, le syndicalisme, il y avait une véritable stratégie anarchiste que vous montrez dans ce documentaire Ni Dieu ni Mai, diffusé ce soir sur Arte. Il n'y a pas qu'en France, d'ailleurs, que c'était très mal vu. Aux États-Unis aussi, il y a eu une répression de ces mouvements. On peut citer notamment aussi l'affaire Sacco et Vanzetti, qui a beaucoup fait couler d'encre à l'époque et donné son titre à une chanson de John Baez, qui a popularisé les deux héros de cette, les deux héros anarchistes d'alors. J'aimerais qu'on dise un mot, comme il nous reste assez peu de temps aussi, de ce que l'anarchisme, ou de comment l'anarchisme avait pensé la question de l'éducation. Il y a eu des maisons du peuple, des bourses du travail, qui étaient là pour donner à l'origine du travail aux ouvriers, mais vous montrez dans votre documentaire que petit à petit, ce sont devenus ces maisons des lieux d'éducation populaire, alors d'autres diraient peut-être d'endoctrinement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait là encore le passage avec aujourd'hui ce postulat éducatif que les enfants doivent être autonomes intellectuellement, qu'ils doivent pouvoir se prémunir justement contre les risques d'endoctrinement. On peut retrouver ça d'une certaine manière dans des écoles plus libertaires aujourd'hui, comme les méthodes Montessori, Freinet, Steiner. Il y a peut-être cette pensée qui a continué à infuser jusqu'à aujourd'hui. Mais quelle était à quelle inspiration anarchiste répondaient ces bourses du travail, ces maisons du peuple ?
Non, pour répondre plus généralement, les anarchistes ont toujours été sensibles au fait de faire de la propagande ou de l'éducation populaire. C'est-à-dire que tous et à tout moment et dans tous leurs lieux, on retrouve un souci porté au fait de s'éduquer soi-même, d'ailleurs. Donc, c'est dans les bourses du travail, mais on le retrouve aussi dans les causeries populaires de Libertad. Donc, dans les bourses du travail, on faisait des pièces de théâtre. Dans les colonies libertaires, donc ceux qui s'exilaient se donnaient des cours d'espéranto. Chacune des grandes figures de l'anarchisme a énormément voyagé à travers le monde pour, en quelque sorte, prêcher la bonne parole libertaire, si Irène m'autorise la petite métaphore. Évidemment, au sein des écoles, mais contrairement à ce que vous dites, ce ne sont pas des écoles d'endoctrinement. Et d'ailleurs, Ferrer a c'est Sébastien Faure, je crois, qui a cette phrase précise, qui est racontée par Normand Barrière-Jean dans le film, c'est que le but des écoles libertaires n'est pas de faire de bons petits anarchistes. Et à l'inverse, s'ils avaient fait de bons petits anarchistes, dit-il, c'est que nous avons raté quelque chose. Ce que nous voulons faire, c'est des hommes complets. Et il y a cette idée chez les anarchistes que il faut réconcilier les hommes, disons sortir de l'individu tel qu'il est divisé par la société capitaliste, travailleur la journée, consommateur le soir, touriste pendant les vacances, mais redevenir une personne pleine et entière qui se cultive, qui est créatrice et qui est aussi une militante et une combattante pour la justice et la liberté.
On terminera en soulignant la dimension internationale aussi du mouvement anarchiste qui a essaimé un peu partout dans le monde. Et vous racontez bien ça dans votre documentaire, le Mexique, la Catalogne et partout ailleurs. Merci beaucoup à tous les deux. Irène Pereira, je rappelle le titre de l'un de vos ouvrages, L'anarchisme dans les textes, anthologie libertaire parue chez Textuel. Merci à vous, Tancrède Ramonet. Deux volets donc ce soir à voir sur Arte. Et merci, chers camarades, ni Dieu ni maître. Donc, merci à vous, Camille Magnard. Aujourd'hui, c'était Perret Le Gras à la réalisation. Émission conçue et préparée par Claire Maillot et Clémence Marie, avec Henri Leblanc et Nicolas Dutant, Coppelia Ménardi et Andrea Kinapi. Rendez-vous à la page de La Grande Table pour toutes les informations, si vous le souhaitez. C'est sur franceculture.fr, évidemment. À demain.